Allez, 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 allez. On y va.
Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Alors, on y va. Sel, sel. Dépêchons-nous, dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard.
C'est peur, là.
Non, pas là, pas là. C'est curieux, quand même.
J'accepte les régimes, mais pas les manies.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille?
J'adore les sushis.
Les gens ne savent pas ce qui est bon. Les gens ont un trou dans le ventre et ils remplissent ce trou de merde.
Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.
Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais.
Oh, deux desserts, c'est une bûche?
Non, c'est Cloug.
Bonjour à tous et toutes, c'est De Bouche à Oreille en direct sur Studio Zef. Une émission dédiée à la popote, la boostify, la mangeaille, la ripaille, bref, tout ce qui fait vibrer n'importe quel humain qui se respecte, et particulièrement le français, j'ai nommé la gastronomie. Et nous voilà de nouveau réunis pour ce nouvel opus de Bouche à Oreille. Merci à vous, chers auditeurs, d'être derrière le poste. Cuillère à soupe en main, vous voilà prêts à attaquer le dîner du lundi. À moins que vous ne tourniez en rond, incapable de vous décider sur la teneur de votre repas à venir. Eh bien, ça tombe bien, nous sommes là. Car l'émission de ce soir est consacrée à la cuisine d'automne. Châtaignes, champignons, courges, pommes de terre. Mais qu'est-ce qu'on peut bien manger à l'heure des premiers frimas et des dîners au coin du feu? Pour y répondre, nous avons invité Sophie Rabérin-Audebourg, la nouvelle propriétaire du fameux bistrot L'Herbe Rouge à Valère. Et comme d'habitude, j'ai avec moi mes camarades attablés, Yann, bonjour, qui poussera son coup de gueule mensuel tout à l'heure. Salut Yann.
Salut.
Marie, notre spécialiste S20, qui arrive tout juste de Paris où elle a passé le week-end à fêter les primeurs et qui nous en parlera justement un peu plus tard.
Oui Alice, bonjour.
Véro, qui clôturera l'émission avec les souvenirs culinaires d'enfance du certaine Vicky. Salut Véro.
C'est ça, salut à tous.
Et enfin Jérémy, à la technique et à la programmation musicale. Salut Jérémy.
Salut.
Alors avant de laisser, bonsoir Sophie, déjà,
bonsoir.
Soyons polis, ce serait quand même mieux. Avant de te donner la parole Sophie, chers camarades attablés, qu'avez-vous amené comme bon plan dans votre panier, Yann?
C'est moi qui commence,
ouais.
Je m'approche un peu, j'ai pas mes lunettes, donc ça va être un petit peu ric-rac pour moi aujourd'hui. Je vais essayer quand même de me relire, c'est moi qui ai écrit.
Aie voilà. Confiance auditeur, tout va bien se passer.
Merci, merci, merci. Mon coup de cœur ce mois-ci, c'est un mot, le mot pot, P-O-T. C'est un mot dont les origines ne sont pas clairement établies, c'est pas une petite histoire, qui a été emprunté d'on ne sait où par les Francs, et qui nous parle bien sûr de soupe et de viande et de légumes cuits dans le même récipient. Je vous parlerai donc de soupe, de potage et de pot-au-feu tout à l'heure, puisqu'il commence à faire froid et puis on a envie de manger tout ça.
Et voilà. C'est trop bon.
Et c'est trop bon. Ouais.
Très bien. Donc le pot. Le pot.
Oui, le pot, le pot, le pot.
Bien, bien. Le pot. J'aime bien, ça me plaît bien comme coup de cœur. Merci.
Je t'en prie.
Marie, ton bon plan?
Mon bon plan, mon coup de cœur du mois est tout simplement le Salon des Vins du Coin. C'est le Salon des Vignerons et Vigneronnes du Coin. Pas loin de Blois, autour de Blois, dans le sud du Loir-et-Cher, petit sud ou grand sud, qui sont rassemblés donc au sein d'une association du même nom. Leur engagement est de produire des raisins biologiques qu'ils vinifient le plus naturellement possible. La 14e édition du salon aura lieu le 1er décembre prochain au château de Blois, de 10h à 19h. L'entrée coûte 5€, avec un beau verre offert qu'on peut ensuite garder des années. Il y aura 21 vignerons, dont les Capriades, par exemple, Noëlla Morantin, Julien Pinault, le domaine des Maisons Brûlées. Il y a des petits nouveaux aussi dans cette édition, dont les Jardins de Thésaïs. Et puis, il y a Yann aussi, avec ses bières.
Tiens
voilà,
donc,
il y aura
La bière s'invite au Salon des Vins, alors?
Ouais. Tout à fait. La bière, c'est le nouveau vin, il paraît.
D'accord. Voilà. Oh non, moi je... Oh, je vote contre.
Tu vas pas te faire des copains, toi, ce soir.
Attention.
Non, c'est bien différent.
Je prêche pour ma paroisse.
Ouais, c'est ça. Mais on est là pour amener le curseur où il doit se tenir.
D'accord.
Et je crois savoir, Marie, que tu tiendras un stand, toi aussi, avec les éditions de L'Épure.
Avec les livres des éditions de L'Épure et les livres que je coédite avec les éditions de L'Épure.
Voilà, c'est ça.
Mais finalement, merci, après tout, vin, bière, gastronomie, l'essentiel, c'est que ce soit bon.
Bah, tout à fait.
Et que ça aille ensemble.
Et ouais. Jérémy me fait un signe parce qu'on a failli l'oublier. Il sera là aussi avec l'ESAT, le centre, alors le ESAT, l'établissement...
de santé, de service et de santé, pardon,
d'aide
par le travail, oui, pardon, oui. De Pont-le-Voix. Et donc, il vendra les légumes de l'ESAT et des soupes au château de Blois. On redit samedi de 10h
à 1er décembre. Alors, c'est pas tout de suite, pardon, mais voilà, ouais. On vous annonce ça à l'avance de 10h à 19h.
Et voilà, on y boit vraiment du bon. Allez-y.
Et la soupe est bonne. Hein.
Et la soupe est bonne. Ah oui. Très bien. Véro, ton bon plan ?
Oui, alors mon bon plan, je suis désolée, il n'est pas du tout local, mais enfin, je le dis quand même parce que ça peut susciter des vocations. C'est à Arras. Il y a une association qui s'appelle Le Réchaud, R-E-C-H-O, comme refuge chaleur optimisme. Et donc, ce sont 12 femmes en colère qui pensent que l'on est tous égaux avec un éplucheur et qui décident de se rendre sur les centres et lieux d'accueil de France et d'Europe pour porter un message d'hospitalité et de générosité en invitant les réfugiés et les populations accueillantes à cuisiner ensemble. Alors, en juin 2016, Le Réchaud lance une campagne de crowdfunding et puis en 45 jours, il peut acheter son food truck et partir sur les routes. Voilà, alors ce food truck permet au Réchaud de se déplacer, bien sûr, partout en France et en Europe aussi. Et ils ont des chefs partenaires, voilà, comme les Trois Gros, comme, voilà, ouais, mal, comme hein. Des gens un peu connus, quoi.
Ouais, hein. Des débutants en cuisine. Quoi.
C'est ça, ouais, ouais. Le Réchaud intervient aussi depuis sa création auprès des collectivités, mairies, festivals et puis d'autres manifestations aussi. Alors, je vous invite tout simplement à aller sur leur site, lerechaud.org, L-E-R-E-C-H-O.
Merci. Voilà. Sophie, un bon plan ?
Alors moi, je vais un petit peu rebondir sur les vins du coin du 1er décembre. Il y a un traité de jajalogie qui va sortir, ou qui est déjà sorti, il me semble, édité par les magazines 180 degrés et 12 degrés 5. Donc, c'est
excellente
un gage de qualité.
Édition.
Et on aborde le vin de la vigne au verre. Donc, on explique avec des mots simples tout ce qu'on a du mal à comprendre.
Le travail
pour
de
le
la
simple
vigne,
mortel.
Du coup, ah, génial.
De la vigne à la vinification, savoir qu'est-ce qu'un vin naturel, qu'est-ce que la biodynamie, de manière le plus simple possible. Enfin, ça a l'air intéressant.
D'accord.
Je l'ai plus ou moins parcouru parce qu'il y avait des petits extraits disponibles dans les librairies. Et puis là, c'est sorti.
Génial.
Donc, je pense que c'est un bon outil quand on a envie de découvrir le vin.
D'accord. Donc, c'est un ouvrage à part. Hein. C'est ni 180 degrés,
non,
ni 12 degrés 5.
Non, c'est pas 180 degrés. C'est un genre de numéro spécial.
D'accord. Traité de jajalogie.
Traité de jajalogie.
Voilà. À découvrir d'ici peu. Ok. Et ben moi, mon bon plan, c'est le numéro d'automne d'un magazine culinaire que j'aime beaucoup. Alors, beaucoup moins que 180 degrés, hein, soyons honnêtes. Saveur. Alors, le bimestriel pèse 130 pages. Et puis, il a l'avantage de proposer des reportages assez variés autour de la cuisine. Le dernier numéro, par exemple, fait un focus sur le supermarché coopératif La Louve à Paris. Alors, on n'échappe pas aux photos typées vintage, un peu bobo branché. Je dois avouer que le must est atteint avec la thématique camping d'automne qui met en scène un couple quadra, donc monsieur est barbu, hein, ça va de soi, à la campagne, à popoter des plats impensables dans une caravane. Alors, quelqu'un que je connais bien m'a dit, bah dis donc, je me demande bien qui peut cuisiner des trucs pareils en camping, et c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience, croyez-moi. Alors, c'est vrai que le feuilleté de champignons de Paris, l'engrais pesto de persil cuit au four m'a laissé un peu dubitative quant à sa faisabilité réelle en camion ou en caravane, et encore, je parle avec un petit peu d'expérience. Mais que voulez-vous, l'imaginaire parisien n'a pas de limite. Enfin bon, ce numéro regorge quand même de pépites pas très compliquées à faire et qui font saliver rien qu'en regardant les photos. C'est donc le numéro 250 d'octobre-novembre de Saveur et ça coûte 5 euros.
J'ai flambé ma cervelle aux cheveux rouges. J'ai coulé ma bielle aux reins qui bougent. Je n'irai plus dans l'herbe rouge. J'ai goûté l'étincelle de la joute. J'ai vautré ma lèvre au fond des sources. Je n'irai plus dans l'herbe rouge. J'ai noyé laquelle sèche ma bouche. J'ai froissé ses ailes de gorge rouge. Je n'irai plus dans l'herbe rouge. J'ai flambé ma cervelle aux cheveux rouges. J'ai coulé ma bielle aux reins qui bougent. Je n'irai plus dans l'herbe rouge.
De bouche à oreille.
L'émission qui fait manger des épinards.
Et ce morceau, forcément, de David Laforce 5 Têtes, Herbe Rouge, est vraiment à propos. Merci Jérémy pour cette programmation, parce qu'on va présenter Sophie. Donc, Sophie Raberin-Hautebourg est une autodidacte qui a commencé sa carrière en Avignon, où elle a dirigé un bistrot avant de monter à Paris, reprendre chez Germaine, une table quinquagénaire du 7e arrondissement. Et puis en 2012, elle a ouvert l'annexe Montmartre dans le 18e arrondissement, qui a très vite enflammé la critique. Débordée par le succès, Sophie décide de se mettre au vert, et bien lui en a pris, puisque c'est chez nous, à Valère, qu'elle a élu des domiciles avec sa petite équipe, Richard et Elisa, en rachetant l'Herbe Rouge le 1er mai dernier. Des petits plats aux abords simples mais très raffinés, des produits frais, locaux et bio tant que faire se peut, des saveurs végétariennes, mais pas que, je rassure les carnivores. Une cave 100% nature régionale et de toute la France, le tout à des tarifs très très abordables. Voilà ce qu'est la nouvelle Herbe Rouge de Valère. Alors on est très très content de te recevoir, Sophie.
Moi aussi, je suis contente d'être là.
Pour parler cuisine d'automne avec toi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis écoute, lançons-nous dans le grand bain. Première question, quand je te parle de cuisine d'automne, qu'est-ce qui te vient d'abord en tête?
Alors, ce qui me vient en tête d'abord, c'est que l'été se termine. On a eu foison de légumes colorés, de fruits. On a encore ça dans la tête. Et puis finalement, on se dit, oh, l'automne, qu'est-ce qu'on va faire? Mais finalement, il y a tellement de choses. Il y a énormément, énormément de choses à faire. Il y a de la couleur.
Aussi.
Il y a de la variété. Et ça, sur pas mal de mois, parce que finalement... L'automne, c'est le prémisse de pas mal de mois qui vont arriver, avec foison de légumes, racines et autres, les choux, les courges.
Oui, parce que c'est vraisemblablement à cette période qu'il y a le plus de production, en fait.
Finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont proposées. Donc pour nous, les cuisiniers, c'est quand même... très facile de varier les plaisirs.
Parce que c'est vrai que la courge a fait son apparition. On voit beaucoup la courge butternut.
Il y a une courge locale, la sucrine du Berry qui vient d'ici, donc qui s'apparente un peu à la butternut. Mm-hmm. C'est à peu près la même forme. La chair est très très orange et c'est délicieux. C'est un peu plus sucré.
D'accord. Un peu plus gros aussi généralement, non? Elle est un peu plus grosse.
Ça dépend.
Ouais, enfin, ça dépend.
C'est plus ovale en tout cas.
Ouais. Ouais, voilà. Mais c'est très bon.
Hein. Ouais, c'est très bon, oui. Mm-hmm.
Et tu la cuisines comment alors parce que la courge, ça peut vite avoir... dans l'esprit de toute personne qui ne sait pas forcément cuisiner, la courge peut être répétitive. Quelques exemples de cuisine avec de la courge.
Alors la courge, moi j'aime bien le potimarron. Mm-hmm. J'aime bien le potimarron parce que...
On peut laisser la peau.
Voilà, on peut laisser la peau. On peut la cuisiner au four avec un peu d'ail, un peu d'oignon, une belle huile d'olive, quelques noisettes...
C'est-à-dire juste couper en morceaux, on enlève les grains du milieu.
On enlève les graines, on garde les graines, on les fait sécher.
D'accord.
On en fait des graines de courge qu'on peut utiliser. C'est un petit peu laborieux,
La graine de potimarron, on peut l'utiliser.
Oui, on récupère les graines, on les fait sécher et ensuite on les défait. On les défait. Bon, c'est un peu fastidieux.
Et on mange l'intérieur alors.
Et on mange la graine de courge, oui.
Ah.
C'est très bon pour la santé.
D'accord.
C'est un très bon antioxydant.
D'accord.
C'est plein de protéines.
Ok.
Ça peut être un palliatif à la viande, par exemple.
Ouais.
Non, c'est un petit peu long à faire, mais ça se fait.
Ah ok, je l'ignorais totalement. C'est cette espèce de pépin tout voilà. plat.
Oui, pendant les longues soirées d'hiver.
Et voilà, voilà. C'est on ça. Les laisse sécher au coin du feu et voilà, après c'est parfait.
On alterne un jour à casser des noisettes et le lendemain à dépiauter des graines de courge.
Je ne trouve pas ça tellement répétitif. Enfin, oui, ça peut paraître répétitif, les courges, je suis d'accord, mais ça se marie avec tellement de choses.
Ah, oui, oui.
Mon épouse cuisine avec beaucoup d'épices. Toutes les courges se marient avec toutes les épices.
Ah oui,
pratiquement. Éviter la coriandre, je trouve pas, c'est une herbe qui... Enfin, les herbes fraîches, tu ne maries pas tellement avec. Mmh. Mais tout ce qui est un petit peu épicé, voire même un peu relevé, hein, c'est très délicieux avec une multitude de courges.
Et donc, tu fais au four en morceaux, mais...
Je coupe en morceaux, grossièrement. Je mets
comme
au
des
four.
Pommes de terre, en fait.
Oui, exactement.
Des gousses d'ail.
Quelques gousses d'ail, des oignons, ou même des échalotes entières, éventuellement, parce qu'après, on peut les faire confire en même temps.
Mmh.
Et puis, je mets au four pas trop fort, 160 degrés.
D'accord, comme ça grille pas.
Ça cuit très vite. Le potimarron cuit très vite. Donc, il n'y a pas besoin de le laisser 2 heures au four.
D'accord.
Voilà, en fonction de la puissance du four, on surveille un peu la cuisson. Et ensuite, on mange ça avec une bonne huile de noisette, quelques noisettes torréfiées. Évidemment, effectivement, quelques épices.
Oui.
Un peu de cannelle, des choses comme ça.
Ah oui, la cannelle, d'accord. Mmh. Un plat simple et efficace.
Et c'est très bon à manger... Ou alors après, on peut une fois cette préparation cuite, on peut mixer avec un joli bouillon de légumes.
D'accord.
Et ça fait un velouté de potimarron.
Un velouté, c'est ça. Alors, plus potimarron ou plus butternut, ou les deux, mon capitaine, mais pas pareil?
Alors, plus potimarron, mais ouais, butternut ou la courge du Berry, c'est...
Ouais.
Je les cuisine plutôt en velouté dans ces cas-là. Ou alors entier, coupé en deux... Farci avec, ça peut être avec du quinoa.
D'accord.
Des petites choses comme ça, fini avec un petit peu de fromage de chèvre.
Alors, quand tu les fais en velouté, en parlant de la citrouille, est-ce que tu fais, il y a plusieurs écoles, est-ce que tu fais comme moi? Moi, je les coupe en deux.
Exactement.
Je les égrène, on met dans le four entièrement.
Le four,
tu fais comme et ensuite tu grattes.
Oui.
Ce qu'il y a sur la peau, tu la donnes à tes poules ou autre chose?
Voilà, parce que évidemment, la peau de la courge butternut,
c'est raide.
Ouais.
La citrouille, c'est pareil. Hein.
Ouais,
j'imagine
exactement.
Que tu fais exactement la même chose.
Ouais.
Une fois que c'est bien cuit, bien fondant, tu grattes jusqu'à la peau et après, tu l'utilises. D'accord.
Sinon, après, il y a la méthode de la cuisson sous vide, mais c'est encore...
Qu'est-ce que c'est?
Ça, ça va être autre chose.
Voilà, c'est une méthode de cuisson à basse température, sous vide,
c'est-à-dire...
qui permet de conserver... l'eau qui est contenue dans les aliments et donc de conserver un maximum de saveur.
Les minéraux,
etc.
D'accord.
Les sels minéraux, les vitamines, évidemment, puisque la cuisson est à basse température et que du coup, on conserve quand même les qualités nutritives
de l'aliment. Ouais. Et alors, moi, je ne sais pas vous, moi, j'ai été dégoûtée par la citrouille quand j'étais petite, parce que par chez moi, je ne sais pas si c'est un truc national, on mangeait de la soupe de citrouille sucrée. Et alors, rien que cette odeur... Elle m'est restée, c'était juste pas possible. Je pouvais pas rentrer dans la cuisine. Alors, il y avait pas ça chez mes parents, mais chez des personnes un peu plus âgées qui faisaient ça à côté. Et je revois, enfin c'était pour moi une horreur quoi. Je sais pas, vous savez.
C'est quelque chose de local ou j'ai jamais entendu?
Je ne sais pas.
Moi non plus.
Je ne sais pas.
Plus.
Non, 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 la soupe de citrouille.
Tu vivais dans quelle partie du
quelle
monde?
Cave.
Dans une caverne. Dans une caverne. Non, mais ça doit être ça. Donc c'est un truc très local. Et du coup, la citrouille, il faut pas m'en parler quoi. Enfin, mais la citrouille, ça, tu la cuisines comment par exemple?
Oui, mais la citrouille, c'est quelque chose qu'on cuisine beaucoup moins maintenant. Maintenant qu'il y a l'apparition d'autres.
C'est ça,
d'autres
ces courges anciennes qui sont revenues en fait.
Voilà. La citrouille, on la cuisine pas vraiment. Hein. Moi, je la cuisine pas.
Hein. Alors, ce qui est intéressant dans les courges aussi, c'est qu'on a des couleurs. Enfin,
oui.
Elles ne sont pas toutes oranges. Alors, déjà, la butternut, elle est un peu plus jaune.
On a la courge spaghetti qui est pas du tout,
la courge spaghetti.
Pas du tout orange.
Absolument
qui est
délicieux.
Plutôt jaune, qui fait un petit peu des filaments,
comme des spaghettis.
Ouais. Et ça, c'est très agréable à travailler aussi. Par contre, c'est bien de la laisser... comme tu disais tout à l'heure, Yann, couper en deux, manger
avec de la sauce tomate.
Alors moi, je
ne
fais pas
texture.
Ça comme ça, par contre. Je la poche entièrement dans l'eau bouillante, à peu près 15-20 minutes, ça dépend de la grosseur de la courge. Et ensuite, quand on la sort de l'eau, on la fait refroidir un petit peu, on la coupe en deux dans le sens de la longueur, et après, on égraine. Enfin, on égraine et on fait...
Alors, ce qui est pénible, là, c'est qu'il y a les grains au milieu, qui se mélangent avec les fils, un peu.
Non, à la cuillère, ils s'enlèvent très facilement. Ouais. Et après, avec la fourchette, on strie des spaghettis à l'intérieur. Voilà, c'est une autre méthode.
Ouais.
Et après, à la crème. La crème. T'aimes pas la crème, toi, Alice?
Oui, on n'est pas obligé d'informer tous les auditeurs que je n'aime pas la crème.
Alice, tu nous l'as dit l'autre fois.
La crème.
Tu l'as dit à tout le monde au mois de juillet quand j'ai parlé du gâteau au yaourt. La crème fraîche était hors de question pour toi. Pardon. Il fallait le verre d'huile pour toi.
Pardon, oui, c'est vrai. À voilà. La crème, très bien.
À la crème.
Avant de poursuivre, on va se faire une petite pause. Bah non, on va poursuivre parce que Jérémy me dit qu'il n'est pas du tout prêt à lancer la chronique de Marie. Très bien.
Moi, en tout cas, je peux la lancer.
Bah si, voilà. Si. Je disais une pause, c'est parce qu'on va parler vin, quoi. On ne va pas du tout parler musique. On va parler vin pour accompagner tout ça. Marie
Alors, dans le monde du vin, il se passe quelque chose au mois de novembre. C'est les primeurs, la sortie des primeurs. Donc, mon choix a été évident d'aller voir le vigneron Thierry Puzla, dans son domaine Claude Tubeuf au Montil. En effet, de une, Thierry est un grand vigneron. De deux, Thierry est un vigneron du coin. De trois, Thierry fait des primeurs depuis 20 ans. Inspiré par les primeurs nature de ses amis vignerons du Beaujolais. Allez Thierry, on t'écoute. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Donc nous sommes chez Thierry Puzla aujourd'hui. On a la chance de faire un petit tour par son chai pour l'interroger sur les primeurs et sur son primeur en particulier. Si tu pouvais nous rappeler un petit peu en quelques mots qu'est-ce qu'un primeur et pourquoi, enfin quand est-ce qu'on le fait en particulier?
Alors, un primeur, c'est un vin nouveau. Il y a toujours une petite période juste après les vinifications où les vins sont vachement proches du raisin, sont très très fruités. Donc pour moi, c'est ça un primeur. C'est un vin qui doit être bu juste dans cette période qui suit la vinification. Quand est-ce qu'ils sortent? Alors ça, c'est beaucoup plus administratif. C'est le troisième jeudi de novembre pour tous les vins AOC. En fait, moi, je le fais en vin de France, donc on en boit déjà depuis un petit moment. Mais voilà, il n'y a pas de législation pour les vins de France. Pour tous les Beaujolais, Touraine, Gaillac et autres vins nouveaux officiels, du coup, c'est le troisième jeudi de novembre. Ça a été un succès commercial à tel point dans le Beaujolais que les pratiques de vinification se sont collées à un pseudo-style primeur, avec des levures sélectionnées qui sortent des arômes extravagants.
Oui.
Et ça a tué d'ailleurs un petit peu l'esprit du Beaujolais nouveau. Mmh. Et l'esprit des vins nouveaux en général.
Et a donné une mauvaise réputation aussi.
Et a donné une très mauvaise réputation à la région tout entière d'ailleurs du Beaujolais, qui souffre encore un peu de ça. L'école vin nature du Beaujolais, qui s'est mis à faire des primeurs honnêtes, des primeurs normaux, c'est-à-dire en fait ce sont des vins normaux, un tirage précoce de vins normaux, c'est plus ça l'état d'esprit dans lequel on le fait. Du coup, ces primeurs-là se vendent plutôt bien parce qu'ils sont marginaux, parce qu'ils sont minoritaires, mais surtout qui répondent à quelque chose d'un peu plus honnête et que les gens apprécient, quoi. Le modèle de ces collègues-là du Beaujolais nous a pas mal inspirés, c'est-à-dire qu'on... C'était un vrai événement qui durait plusieurs semaines dans les années 90. Maintenant, ça dure que 3 ou 4 jours. Mais c'était un vrai événement et tout le monde allait à Paris faire la bringue ensemble. Tous les vignerons de France qui faisaient du primeur. Enfin, du coup, c'était un truc vachement sympa.
Oui.
À cette période-là. Oui. Donc ça nous a bien inspirés. Ouais.
Est-ce que tu en fais tous les ans, alors, justement, c'est systématique pour toi ou ça dépend de l'année, peut-être aussi
Oui, parce que chaque année, on trouve au moins un lot de gamay qui correspond à cette idée-là.
C'est-à-dire
C'est-à-dire un truc qui goûte très, très raisin immédiatement après les vendanges. Il y a toujours une cuve comme ça sur le volume que l'on fait. Donc, on en fait, oui, tous les ans.
Alors, justement, est-ce que... Là, toi, tu en as fait un cette année.
Ouais.
Comment tu pourrais nous le caractériser? C'est un gamay, justement?
Ouais.
Ce sont systématiquement des gamay ou pas toujours?
Non, il nous est arrivé de mettre du pinot noir en bouteille pour faire du primeur. En fait, c'est parce qu'il y avait il y a des millésimes où il y a une cuve de pinot noir qui goûte plus raisin ou plus friand comme ça immédiatement que certaines cuves de gamay. En l'occurrence, c'est quand même la plupart du temps du gamay parce que c'est un cépage qui se prête bien à ça. Là cette année, alors il y a eu deux vitesses dans les vendanges 2018. Il y a eu ce qu'on a vendangé très tôt et c'est en l'occurrence ce qu'on a mis en bouteille, qui était ramassé à une maturité décente. C'est-à-dire que ce primeur-là fait 12-8, ce qui est quand même pas mal pour du primeur. Mais après, on a d'autres gamets qu'on va élever longtemps, qui sont plutôt à 14,5. Mm-hmm. Et ceux-là ne sont pas très propices à faire du vin nouveau. Quoi,
non, parce qu'ils ne sont pas encore finis.
D'abord, si, ils sont finis aussi, mais ils vont demander plus d'élevage parce qu'ils sont vachement plus riches et vachement plus puissants. Donc, ils vont demander un peu de temps avant d'être prêts. Alors, on l'a mis assez tôt. Hein, on l'a mis vers le 25 octobre en bouteille parce qu'il était prêt et qu'on en vend au Japon et que la contrainte de transport fait que ça part dans les derniers jours d'octobre ou les premiers jours de novembre maximum pour être là-bas pour le troisième cuisine.
Ouais.
Donc du coup, il est reposé de la mise parce qu'il a déjà 3 semaines de mise en bouteille. C'est du gamay tout nu, quoi, avec ses propres levures. Il n'y a rien d'enlevé, rien d'ajouté. Voilà. Santé.
Santé.
Voilà, on est bien sur le truc de la... Ça sent encore le marfrais, quoi. Ça sent encore les odeurs de décuvage de raisin en fermentation, quoi. Donc on est bien sur ce profil de vin qui ressemble énormément au raisin frais, quoi.
Je recommande vivement à tous les auditeurs de le goûter, il est vraiment excellent. Et justement, Thierry, comment on peut les goûter où dans le Loir-et-Cher?
Alors, dans le Loir-et-Cher, il y en aura aux 400 coups.
Oui, à Blois.
À Blois. Il y en aura à l'Herbe Rouge, à Valère.
Oui.
Et je crois qu'il y en aura au bar de la 6 à Chambon-sur-Cisse. Et je crois que c'est tout pour le Loir-et-Cher.
Bah, c'est déjà bien. Voilà. 3 adresses. Ok, bah, super. Et justement, bah, pour ceux qui peuvent en boire, ou en tout cas bah, toi, quand t'en bois, qu'est-ce que tu accorderais comme mets, qu'est-ce que tu accordes éventuellement comme mets avec, ou alors c'est juste à boire comme ça?
Bah ouais, c'est une boisson là, enfin, ouais. C'est pas un vin de gastronomie, moi, c'est bien avec une rondelle de saucisson, quoi, mais
ouais.
Je pense que c'est, faut pas trop se casser la tête, c'est bon à boire comme ça, quoi.
Ouais, ouais.
Ça remplace facilement un vin blanc d'apéro, enfin, ouais, c'est un vin qui suffit à lui-même ou avec un morceau de terrine ou une rondelle de saucisson, ouais, c'est parfait.
Et avec, qu'est-ce que tu lirais?
Je lirais une BD assez légère,
ouais.
pas de la littérature qui inspire à la méditation.
Et la musique? Quel morceau de musique tu nous conseilles avec ce vin?
On pourrait écouter un morceau de punk rock, par exemple, avec ça.
Par exemple, genre
NoFX, Linoleum, ça serait parfait.
Bah, merci beaucoup, Thierry. Et bon millésime 2018. Bon primeur d'abord et bon millésime. Merci. Merci beaucoup.
Merci.
De bouche à oreille.
C'était quoi des...
Du gras,
gras c'est la vie.
Le gras c'est la vie, vas-y.
De bouche à oreille.
Le gras c'est la vie.
Oh oui. J'avais oublié ça.
C'est un cri du cœur.
Merci Thierry pour cette programmation punk par un punk. C'était donc Linoleum de NoFX. Alors sans transition, moi je parlerais bien champignons. Sophie.
Oui, jolie transition.
Hein, voilà, c'est ça. Non, mais parce que d'habitude, ce sont des paniers entiers de champignons qui arrivent à l'Herbe Rouge et je crains que cette année, ce ne soit pas vraiment le cas.
Là, les paniers sont vides.
Ouais. Et alors, ton champignon préféré de l'automne à cuisiner?
Oh, ce serait un peu banal de dire le cep, mais c'est quand même un peu la vérité.
Ouais, le cep de Bordeaux, tous les ceps.
Tous les ceps.
D'accord. Ouais. Et tu les cuisines comment alors?
Alors, ça m'arrive de les cuisiner crus, c'est-à-dire les émincer, avec une petite huile de noisette, tout simplement. Avec
du citron, non?
Pas forcément, un petit peu de gros sel, huile de noisette, une petite pointe de wasabi parfois, petite crème de wasabi, mais très légère.
Légère alors.
Oui, non, ça c'est très agréable à manger. Et puis sinon, évidemment, classique avec une petite persillade.
Oui,
accompagner un risotto.
Ouais. Tu fais en poêle avec persil et puis ail ou c'est trop commun?
Oui.
L'ail avec les champignons, archi contre, complètement contre, surtout avec le cèpe, ça détruit le champignon. Alors là, vraiment, déjà le persil, je trouve que c'est vraiment limite. Sur certains champignons,
non, ton coup de gueule, c'est dans 5
non,
minutes, Yann.
Non, je ne commence pas, s'il te plaît. Mais non, le persil, non. Pour une duxelle de champignon... C'est un hachis de champignon avec lequel qu'on faisait il y a 100 ans et tout. Mais non.
Pas d'ail.
Non, ça tue.
Sophie, je mets plutôt des échalotes et je mets de l'ail frais, mais bon, ça c'est très personnel. Hein.
Très personnel, je trouve que ça tue la saveur du cep. Le cep est tellement...
Il se suffit à lui-même, ça je suis d'accord, mais je ne déteste pas mettre un petit peu d'ail. D'accord.
Et alors, un plat de champignons, ça accompagne forcément quelque chose? Est-ce que ça accompagne forcément une viande? Est-ce que ça accompagne... Alors, je ne sais pas si ça se marie bien avec le poisson, le champignon, c'est peut-être une absurdité totale. Ou est-ce qu'un plat de champignons, je veux dire un champignon, le plat c'est le champignon et on va l'accompagner d'autre chose. C'est faisable ça?
Tout est faisable avec le champignon.
Ouais.
Oui. Tu peux le faire en omelette.
Oui, omelette aussi.
Accompagné, oui, dans une soupe crue, avec un risotto. C'est vrai que c'est un...
Au four? On fait du champignon au four?
Moi, je ne l'en fais pas au four, mais non.
Ça pourrait...
Alors, l'avantage du champignon, c'est que c'est un légume qui se déshydrate très bien et qui s'accommode très bien d'être séché.
D'accord.
Donc, on peut utiliser cette méthode-là si on veut conserver des champignons pour en avoir toute l'année.
Ah, d'accord.
On peut faire ça.
Ok. On les passe au four, du coup?
On les passe au four, mais très faible, très doux. Et on les fait sécher et on les conserve dans des petits sacs en papier. Mm-hmm. Et ensuite, on les utilise dans des bouillons ou dans des soupes.
D'accord.
Pour accommoder des fonds de sauce.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un produit qui se déshydrate très, très bien.
Ah oui.
Il y a des champignons qui profitent de la dessiccation, justement, le cep. Le cèpe gagne en saveur.
En saveur, bien sûr. Hein,
En perdant son eau, son humidité.
Ça conserve une saveur. Enfin, quand on met le nez dans un sac en papier rempli de champignons, c'est un bonheur pour...
Pour les papiers.
On a des hallucinations.
Voilà.
Oui.
Non, ceux-là, on n'a pas le droit. Et alors, troisième cliché. Les marrons, les châtaignes, ça va être la période. Alors, je ne suis pas allée me. J'ai pas vraiment eu le temps d'aller me promener en forêt ces derniers temps. Je ne sais pas si les châtaignes sont tombées.
Oui, déjà.
Si, ça y est, ça fait un moment. Mais pardonnez-moi, j'ai un peu vécu enfermée dans un bocal là, ces dernières semaines.
Au mois de septembre.
D'accord. Et alors, les châtaignes. Moi, c'est un peu mon. Alors, c'est vrai que c'est un peu la truffe. La dinde au marron de Noël. Enfin, c'est comme si on avait le droit de les sortir une fois par an, les châtaignes, le bocal. T'en cuisines, toi, des châtaignes?
Que tu vas ramasser? Que je vais ramasser ou qu'on m'amène. Enfin, en tout cas, pas encore à l'herbe rouge, mais ça m'est arrivé, oui.
Avis aux habitants promeneurs.
Ah oui, vous pouvez m'amener vos châtaignes, il n'y a pas de souci.
Et alors, tu les cuisines comment? C'est pareil, accompagnement
Alors, bah, je les cuisine, pareil, en velouté. On parle des soupes, en velouté, avec un petit peu de noix de muscade et quelques feuilles de laurier.
Tu peux nous dire comment tu fais?
Alors, je fais revenir... bon, alors, évidemment, d'abord, je cuis mes châtaignes.
À comment? À l'eau?
Je les fends.
Ouais.
Je fends un petit peu la peau. Je les ébouillante pendant à peu près 5 minutes.
D'accord.
Je les épluche. Et ensuite, je les replonge dans l'eau. Et je les fais cuire 30 à 45 minutes.
Avant qu'elles ne s'écrasent trop.
Voilà. Et ensuite, ça devient une purée que je mixe, que je passe au tamis. Et ensuite, je cuisine avec un peu d'échalote que je fais revenir. Je mets mes châtaignes, bouillon de légumes ou bouillon de volaille. Et ensuite, je fais cuire ça avec un petit peu de laurier. Et je mixe tout avec un petit peu de crème fraîche, pardon. Et c'est très savoureux.
Ouais, c'est ce qui donne le velouté.
La crème fraîche. Moi, je les mélange avec le potimarron et c'est drôlement bon.
Oui, aussi, bien sûr. Et avec bouillon de légumes ou juste...
Non, moi, je fais revenir le potimarron, en fait, à feu vif, à la poêle, avec des échalotes ou des oignons rouges. Et puis après, voilà, je mets un peu d'eau et puis je mets mes châtaignes. Voilà.
D'accord.
Et puis, je laisse cuire tout ça...
tranquillement.
Tranquillement, voilà. Et après, je mixe. J'écrase. Je ne mixe pas, j'écrase.
Oui, délicatement, avec une fourchette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme parce que l'automne pour ça c'est pas mal, c'est qu'il y a quand même pas enfin il y a les champignons, il y a les châtaignes, je sais pas, il y a d'autres légumes, d'autres fruits qu'on peut ramasser. Tu cuisines la figue. Alors certes la figue c'est vraiment début d'automne hein.
Là on arrive un petit peu à la fin.
Mais tu la cuisines en salé la figue?
Oui.
Ouais.
Ça se marie bien avec le fromage évidemment. Bah
oui. Mmh. Ouais.
Oui, c'est vrai que on a plutôt tendance à l'utiliser pour les desserts mais
Oui c'est Ça se marie très très bien avec le salé.
Avec les charcuteries. Ouais,
c'est tellement sucré que du coup, contrebalancé avec une saveur salée, ça fait du bien.
Avec le foie gras, c'est pas mal.
Le foie gras aussi, oui.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Oui, paraît-il. Oui.
Paraît-il. Mais on te l'assure, on te le certifie, ça se marie très bien avec le foie gras.
D'accord, écoutez, je vous crois sur parole, ça m'évitera de tester. Yann, pendant que tu as la parole, si on passait à ton coup de gueule.
Eh bien, écoute, vas-y, pourquoi pas.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
C'est à moi, pardon. Je ne m'y attendais pas. Et encore, je répète ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas mis mes lunettes. Enfin, j'ai oublié mes lunettes chez moi. Donc, un petit peu d'indulgence pour le texte que je vais vous citer de suite. Donc, je vous parlais donc du mot « pot » tout à l'heure. Le mot « pot » désigne dès le XIIe siècle un récipient destiné à contenir des liquides dans lequel cuisent des aliments. Voilà. Le mot « potage », lui, vient un siècle plus tard, vers 1240. Il désigne alors plus seulement le contenant, mais les aliments cuits ensemble dans le même récipient. Ça, c'est pour la petite histoire. Le potager est jusqu'au XIVe siècle le cuisinier qui préparait les légumes pour les faire cuire au pot. Ce n'est que plus tard qu'il désigne le petit carré de jardin où on fait pousser tous les légumes. Le mot soupe, lui, désignait autrefois une tranche de pain que l'on arrosait de bouillon. Ce n'est qu'ensuite qu'il va devenir un synonyme de potage. Alors, on va passer sur toute l'étymologie pour attaquer directement nos deux sujets du jour, à savoir le potage et le pot-au-feu. Le potage, donc, de légumes, évidemment, peut-être passé ou non, entièrement fait de légumes ou bien mouillé au bouillon de viande, de volaille ou de bœuf, ceux qui veulent plus de richesse. Le potage est simple, le potage est chaud, le potage nous flatte les narines dès que l'on rentre dans une maison où il mijote sur le feu. Le potage est encore meilleur parce que peu importe le mélange de légumes, il est généralement pas cher. Je vous en donne une recette très simple, c'est un potage passé, j'ai besoin de 2-3 pommes de terre selon leur grosseur, le poids équivalent en carottes, en navets, un gros poireau bien lavé et une branche de céleri, on peut aussi prendre du céleri rave, un petit morceau. Épluchez vos pommes de terre, brossez vos carottes et vos navets, pas besoin de les éplucher, et mettez dans votre marmite. Moi, j'aime bien faire, et là, Alice, désolé, revenir un petit peu le tout au beurre avant de mouiller. Bon, ça me concerne. Je ne mets pas de crème maintenant, non, pas tout de suite. D'accord. Lorsqu'on couvre d'eau froide et on porte à ébullition. Lorsque celle-ci est atteinte, écumez, puis ajoutez un bouquet garni. Un bouquet garni, tout le monde sait ce que c'est. C'est un petit bout du poireau, on prend le vert du poireau, dans lequel nous mettons un petit peu de branches de persil, une feuille de laurier et quelques branches de thym. On ficelle tout ça et on jette ça dans la soupe. Véronique n'est pas d'accord, elle nous dira, elle est contre le bouquet garni. D'accord.
Contre le bouquet garni.
La cuisson ne devrait pas prendre plus de 30 minutes, à mon avis. Passez au mixeur plongeant, rectifiez l'assaisonnement, crème fraîche. Voilà.
Ah ben là voilà.
Et là voilà. Et maintenant on passe un petit peu au pot-au-feu. Parlons donc de pot-au-feu puisque c'est cela qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Le pot-au-feu donc se prépare exclusivement avec des morceaux de bœuf de qualité moyenne. J'aime pas utiliser ce terme-là mais bon. Généralement ces morceaux ne sont pas très tendres, osseux parfois, gélatineux souvent mais aussi très goûteux à souhait après un long braisage. Le braisage, ce mode de cuisson où les aliments carnés sont lentement mijotés dans un liquide. Ils parfument le bouillon de leur richesse aromatique se mélangeant avec celle des légumes et du bouquet garni, Véronique. C'est au moment de faire ses achats, donc, pardon, C'est là que mon coup de gueule arrive, pardon.
Que je te trouvais bien paisible.
Ouais, je suis très.
Je commençais à m'inquiéter.
Donc je reprends ma phrase. C'est au moment de faire ses achats, nos achats, que les plus que.
Le manque de lunettes. Marie Batté.
Exactement, ouais. Merci de votre indulgence et votre patience. Que voilà, j'arrive plus à me relire du tout. Bon, c'est pas. Plus anciens d'entre nous, pardon, peuvent se retrouver désemparés, je m'explique, depuis 2014. Il a été décidé que la réglementation concernant la dénomination officielle des morceaux de viande de bœuf sur les étalages, des boucheries j'allais dire, mais ou plutôt sur les barquettes polystyrène scellées au cellophane dans les bacs de supermarché, se devait d'être simplifié pour, je cite, et alors là, je vais vous donner un texte, de la DGCCRF, tout le monde sait ce que ça veut dire, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes. Je vous le cite. Certaines dénominations traditionnelles connues d'un public averti, donc ça c'est nous les vieux, ne sont plus comprises des jeunes consommateurs. Autrement dit, les jeunes, vous êtes idiots et incultes, donc on va tout simplifier pour nous. Enfin, pour vous, pardon. Alors là, je m'explique quand même. Le pot-au-feu, adieu, macreuse, gîte, plate-côte, jarret et même os à moelle, puisqu'on va vous donner des morceaux de catégorie 1, 2, 3 à rôtir, braiser, poêler, bref, le mode d'emploi est marqué dessus, il n'y a pas besoin de se casser la nénette, comme disait ma grand-mère. Et ça, je trouve ça hyper dommage. D'autant plus... D'autant que, et puis alors là je vais finir là-dessus, depuis 2016, le nom latin des poissons est appelé obligatoire sur l'étal des poissonniers. Alors ça n'a plus rien comprendre, alors qu'on aurait pu très bien marquer poisson rose à faire ce qu'on veut, parce qu'avec le saumon on fait ce qu'on veut, puis après petit poisson blanc à griller sur le barbecue uniquement au mois de juillet au mois d'août avec les copains. Merci. Tu vois, on aurait pu aller là. Alors non, bah à la place, on saura tous que l'Arctogadus glacialis, c'est un poisson qui frais s'appelle le cabillaud et salé s'appelle de la morue. On est super content de le savoir. Quant à, alors je vais aller lentement. Hein. Là, j'ai besoin de mes lunettes, mais j'ai écrit. Là, tu peux m'aider, Marie ?
Mais j'arrive pas à trop lire non plus. Alors attends.
Ah bon, c'est mon écriture, c'est pas du tout mes yeux.
Atlantarasa.
Atlantorasa cyclophara, ça c'est de la raie, voilà. On va manger de l'Atlantotara au beurre noir avec de la purée des capes, ça va être super sympa. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui pour ça.
Merci Yann, et après ce coup de gueule, ça mérite bien un Against the Law de Sally Ford and the Sound Outside. Oh là là.
Moralité, je me suis bourré de pistaches comme un con.
Piece of cake, even if it was the worst mistake. Baby, baby, won't you be with me? Baby, baby, won't you be with me? Wanna suck you up in a straw.
with me. Baby, baby, won't you be with me? Baby, baby, won't you be with me?
Vous êtes sur Studio Zef en direct et vous écoutez De Bouche à Oreille avec la joyeuse bande d'attablés Yann, Marie, Véro, Jérémy à la technique et notre invitée aujourd'hui, c'est Sophie Rabérin-Audebourg qui nous parle de cuisine d'automne. Alors on a parlé courge, on a parlé champignons, on a parlé châtaigne. Moi j'ai remarqué que tu faisais, enfin, y a, est-ce que c'est la betterave aussi là qui est sortie de terre, qu'on peut cuisiner en ce moment
Alors la betterave elle se cuisine quasiment toute l'année.
Toute l'année parce qu'on la conserve après, ça se conserve bien.
Alors elle
bien.
Se conserve et puis il y a différentes variétés qu'on peut trouver quasiment toute l'année.
Alors quel type de variété par exemple si on parle betterave?
Ben là,
on connaît la betterave rouge. Voilà, classique.
Je parle plus précisément de la betterave rouge mais il peut y en avoir à toutes les saisons.
D'accord. Voilà. Et j'ai découvert une betterave blanche récemment.
Il y en a des jaunes.
Voilà, ouais.
Il y en a des bariolées roses et blanches, les dish yoga ou dish yoga. Il y a plusieurs.
Qui ont l'énorme avantage de ne pas tâcher les doigts quand
ouais,
on.
Exactement.
Sinon, on a l'impression d'avoir commis un homicide dans la cuisine. Voilà, c'est dès qu'on s'attaque à la betterave.
Ouais. Mais c'est tellement.
Elles sont
moins juteuses,
elles sont très bonnes. On peut faire des chips avec.
Ouais, hein.
C'est vachement joli en plus.
Et alors, chose qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que. Pardon, je t'ai coupé la parole,
ah, pas
Véronique.
Du tout.
Ah, pas, d'accord.
Je c'est me que. La tête.
Ah, ben, je l'ai pris pour une velléité de parler. Pardon. Oui, c'est ce qu'on peut dire aux gens, c'est que la betterave ne se mange pas uniquement cuite et sous sachet, et ronde, et coupée en petits morceaux en salade, mais crue. Et que cru, c'est excellent. Et c'est surtout, bon. On chaude aussi. Qu'est-ce que tu as des tuyaux à nous donner justement?
Alors,
par rapport à ça,
on parlait de la betterave crue. On peut la râper.
Mm-hmm.
C'est bon,
on peut aussi l'émincer et puis la faire en pickles.
En pickles? Alors, c'est-à-dire, il va falloir la passer au four pour.
Non, pickles, c'est un mélange d'eau, de vinaigre et de sucre.
Ah oui, d'accord, pardon.
On les râpe crus, on les fait tremper un petit peu dans ce mélange.
Ah, un peu comme les courgettes, comme on peut faire les courgettes.
Voilà, en fait, on peut faire pas mal de légumes comme ça, histoire de les manger crus.
Mm-hmm. Ça les attendrit, du coup, la betterave, j'imagine,
on va garder ce côté croquant.
D'accord.
Mais ça va amener un peu d'acidité, un petit peu de sucre. Ça peut agrémenter des salades, une salade de lentilles ou de pois chiches. On peut agrémenter avec quelques pickles. Ça donne un petit côté acidulé, un petit coup de peps dans la salade.
Oui, coloré aussi, ouais. Ouais. Chips de betterave
aussi, oui.
Alors on les coupe en rondelles, on les met à se déshydrater au four.
Au four, oui, avec à four très très bas, toujours pareil.
Et alors, four chaleur tournante ou vapeur?
Normalement, grille. Il faut que la chaleur soit la plus sèche possible.
D'accord.
Donc après, ça dépend des fours qu'on a, mais il ne faut pas l'ouvrir, il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité.
Mm-hmm.
Donc c'est...
Combien de temps?
C'est long.
Ouais, mais c'est long, c'est une heure, c'est.
Ça peut être plus que ça.
Ah, oui. D'accord.
Il faut vraiment
Il faut bien surveiller surtout aussi.
Oui, parce qu'après, ça va prendre trop de couleurs et on n'aura plus la.
Ouais.
Côté rouge de la betterave.
C'est pas très développement durable, cette affaire.
Il faut éviter d'avoir le
ventilateur. La chaleur tournante. Il faut vraiment que la chaleur soit le plus sèche possible.
Et aussi parce qu'elle risque de s'envoler.
C'est vrai.
Ça va être un joyeux bazar dans le.
Ah, c'est vrai, parce que tu le mets sur un papier sulfurisé, généralement, sur la plaque au four, et puis tout s'envole. Donc c'est pas très pratique.
Et alors, moi, j'ai mangé des betteraves excellentes chez toi, Sophie, dans une assiette végétarienne il y a quelques semaines. Et ce qui m'a marqué, donc il me semble que la betterave était entière et il y avait les feuilles des jeunes pousses qui étaient comme cristallisées, je sais pas trop, c'était juste divin.
Alors je les ai fait cuire à la vapeur.
La betterave entière, en fait, t'as juste épluché, gardé
la. Tout petit peu, j'ai enlevé quelques feuilles.
Mm-hmm.
J'ai gardé une partie de
les petites petites
pousses et je les ai fait cuire au four entière et ensuite j'ai enlevé la peau délicatement.
Ah d'accord.
Alors, c'est pareil, la vapeur après. Ça prend un petit peu de temps.
Mm-hmm.
Là, c'est des toutes petites betteraves, donc c'est un petit peu plus rapide que quand on a des grosses betteraves un peu plus vieilles, c'est-à-dire qui ont poussé un petit peu plus. Et ensuite, j'ai enlevé délicatement la peau, je les ai fait un petit peu poêler avec un peu d'huile d'olive et j'ai posé ça sur un risotto.
Oh ouais, c'est ça. Et c'était juste excellent, vraiment. Moi, c'est les feuilles qui m'ont épatée, d'avoir les feuilles de betterave. Là, c'était joli, un peu vert, vraiment. Ouais, c'était top.
J'ai envie de te poser une question, toi qui es cuisinière depuis très longtemps. Est-ce que tu as l'impression d'avoir... Parce qu'avec la réhabilitation des légumes racines... des anciens, ce qu'on appelle les légumes oubliés. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de choix ?
Ah oui, oui. Ouais.
Mais alors, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est cette réhabilitation. Est-ce que c'est des légumes vraiment oubliés, c'est-à-dire qu'on ne cuisine plus depuis des décennies, voire même des siècles, ou c'est une mode qui revient parce que c'est l'air du temps, parce que c'est l'air de la malbouffe, on en a marre, parce que...
Tu veux dire que ce seraient des nouvelles variétés, oui, qui auraient des été variétés, plutôt que des anciennes d'avant-guerre.
Exactement, ouais. Ouais. Est-ce que
c'est des variétés qui existaient déjà, que j'utilise depuis une dizaine d'années déjà.
Oui.
Donc, ça ne me paraît pas être si nouveau que ça.
Ouais. Mais depuis une dizaine d'années, depuis, on va dire, le début des années, milieu des années 2000 quand même.
Depuis qu'on s'intéresse un peu plus aux légumes, depuis qu'on fait un peu plus attention à la façon dont on mange, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne et pour les gens qui viennent manger chez moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de leur proposer. Mais ce sont des légumes qu'on a déjà, enfin, on les a cuisinés quand même depuis pas mal d'années. C'est vrai que c'est devenu...
C'était des légumes aussi, si je peux me permettre, qui ont été oubliés, mais surtout en France. Hein, j'ai vécu en Scandinavie pendant très longtemps.
On avait envie de...
En fait, on bouffait ça pendant la guerre.
Pendant la guerre, ça donnait une image.
Les gens qui ont connu la guerre ne veulent pas en manger,
non,
c'est
exactement,
encore compliqué
donc,
pour eux.
Le topinambour, la rutabaga, le panais, c'est absolument délicieux.
C'est une merveille, ouais.
C'est fantastique. Une crème de topinambour avec des coquilles Saint-Jacques, même une crème de panais avec des coquilles Saint-Jacques, c'est extraordinaire. La rutabaga, moi j'en fais tous les ans, dans une soupe, dans une potée, c'est magnifique. Mais dans le nord de l'Europe, on en mange tout le temps. Hein. Ça ne s'est jamais interrompu. Nous, on s'est fait occuper par les Allemands. Les gens avec ça à manger, ça a un petit peu dégoûté les 3-4 générations après.
Ouais. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup.
Mais
c'est
revenu
et
assez
c'est très
vite.
En vogue. Je suis d'accord avec toi.
Et les gens ont vite compris que c'était des produits pleins de saveurs et qu'il n'y avait pas de raison de plus les
Et puis ça varie de poireaux, carottes, pommes de terre, qui était un petit peu le triptyque gagnant l'automne-hiver, après la courgette, la tomate.
Dans les légumes un peu plus amers, sucrés en même temps. La rutabaga, le panais, c'est sucré-amer.
Après, c'est vrai que...
Le persil tubéreux aussi, qui est un produit qu'on n'utilisait pas beaucoup, qu'on commence à voir un peu partout.
Qui est difficile à trouver, je dirais, dans le grand...
Oui.
Pour le grand public. Hein.
Oui,
c'est peut-être
c'est vrai.
Plus pour les restaurateurs.
C'est vrai, mais c'est tout aussi facile à cuisiner. Mmh. Voilà, c'est quelque chose de très facile à cuisiner.
Oui, parce que
très bon.
En fait, tous ces légumes-là, on peut les râper, on peut les manger crus, on peut les faire au four, on peut les cuire à la vapeur.
Les modes de cuisson sont infinis.
En fait,
quoi,
il faut innover,
dire,
quoi. Il faut tester.
Bah oui, il faut tester. Mmh.
Hein. La rutabaga râpée, c'est meilleur que les carottes, moi, je trouve. Mmh. C'est très, très bon.
Oui, c'est très bon. Ouais.
Après, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne marchent pas trop, hein, quand même, parce que, par exemple, la betterave dans la soupe, ça ne marche pas.
Un bon borsch, c'est bon, quand même.
Ah, c'est vrai.
Si, ouais. Épinards, mais très simple, hein. Épinards, betteraves, tu fais tout cuire ça, c'est vraiment très bon. Je passe au mixeur avec un peu de crème à la fin, c'est sûr.
Et mais surtout avec
Là, avec des croûtons, avec des croûtons, mais du pain, un bon pain qu'on a taillé un petit dé, qu'on a fait revenir dans un beurre clarifié, avec un petit peu d'ail aussi dessus, dans le borsch, c'est vraiment délicieux.
Bon, d'accord, j'essaie.
On parle quand même de beaucoup de couleurs, hein,
dans
les légumes d'automne, quand même, finalement.
Tout à fait.
C'est beaucoup plus coloré, enfin, c'est aussi coloré que l'été, je trouve. Plus, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le mariage feuillage des arbres et légumes,
parfait.
C'est extraordinaire.
C'est pour ça que c'est une très, très belle saison, à la fois à l'extérieur et en effet à manger. Et alors, on n'a pas eu le temps de parler dessert. Moi, je voudrais juste revenir à la courge, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire une sorte de cheesecake, un gâteau sucré. À la courge butternut, j'en reviens à ma courge butternut, mais dans le dernier numéro de saveur dont je vous parlais tout à l'heure, il est question de ça.
Et ne serait-ce que de poêler des petits dés de butternut dans un beurre vanillé avec un petit peu de sucre.
D'accord, et on mange ça
en petit
carré. Ah oui.
Avec du chocolat, c'est
absolument. On va terminer sur cette note chocolatée. Ben, ça tombe bien.
Le chocolat, on n'en avait pas parlé.
On arrive au bout de cette émission. Véro, si tu nous parlais, nous faisais souvenir des bonnes choses.
Exactement, avec Vicky au micro. Voilà, un souvenir de sanguette.
Sanguette ?
Oui, la sanguette. Et j'ai découvert que c'était vraiment une recette auvergnate. Voilà.
Ah, je n'ai jamais entendu parler de la sanguette.
Se souvenir des bonnes choses.
tu voulais que je te raconte un souvenir culinaire. Donc quand tu m'as dit ça, j'ai pensé tout de suite à la sanguette de ma grand-mère. Alors la sanguette de ma grand-mère, donc si tu veux, ma grand-mère avait une basse-cour et elle avait des poulets, des canards, des trucs comme ça. Et régulièrement, le samedi ou le vendredi, elle allait tuer le poulet pour le dimanche. Et donc, en général, moi, je partais m'enfermer dans la plus loin possible de la basse-cour parce que je ne voulais pas entendre le poulet à qui on mettait le coup de couteau, là. Et donc, elle faisait ça et elle le coinçait, parce qu'une fois, j'avais assisté au truc, elle le coinçait sous son bras et avec un couteau pointu, elle transperçait la gorge et là, elle récupérait le sang. Et le sang du poulet, après, elle le faisait cuire dans une poêle avec de l'ail, un peu d'huile, et elle faisait cuire le sang dans une toute petite poêle comme ça, en fonte noire. Et moi, j'avais le droit de manger la sanguette du poulet, que je détestais voir mourir et entendre hurler, tu vois. Et alors, le summum, c'est que le dimanche, quand je mangeais la sanguette avec l'ail, mon grand-père chopait la tête du poulet qui était cuit avec le poulet, et a coupé en deux, et avec la pointe de son couteau, il prenait la cervelle du poulet, et là, il m'appelait. J'allais au bout de la table et je prenais à la pointe de son couteau la cervelle du poulet. C'était pour moi. J'étais la reine de la fête à ce moment-là. J'ai mangé la sanguette et la cervelle du poulet. Voilà. Mais j'en mangerai plus du tout maintenant. Le goût de la sanguette, c'est un peu doux, c'est un peu sucré. Tu vois, avec l'ail, voilà. Et puis la cervelle, c'est doux aussi comme goût. Tu vois, quand on dit que c'est un goût de noisette, effectivement, mais c'est tout petit, hein, mais bon, voilà. Voilà. Donc le goût est bon, mais c'est de savoir d'où ça vient.
Mais c'est une spécialité du...
Donc, je sais pas, une spécialité des paysans, je crois. On utilisait tout, tu sais. On faisait cuire tout dans le poulet, quoi. Donc ouais. Le sang, le récupérait. Mais si tu veux, à la fois, je trouvais ça horrible, cette histoire de poulet. Moi, ça me terrorisait. Je me bouchais les oreilles. Je voulais surtout pas entendre qu'elle tue son poulet, là. Et à la fois, c'était, tu vois, on n'était pas nombreux à manger la sanguette, hein, et la cervelle, il n'y avait que moi. Tu vois, c'était un truc un peu spécial pour moi, tu comprends? Mais à la fois, je trouvais ça dégueu, quoi, quand même.
Et tu sais pourquoi c'était spécial pour toi?
Je sais pas, parce que, je sais pas, il y en avait tellement peu que c'était peut-être pour la plus petite, je sais pas. Parce que quand je me réveillais un peu tard, le dimanche matin, tard c'est 9h30, hein, ma mère, en général, vidait le poulet, que parfois on pouvait manger aussi à la maison, parce qu'on ne mangeait pas non plus tous les dimanches. Et on n'y a pas mangé tout le temps non plus dans notre vie, chez mes grands-parents. Mais... Et donc, elle le vidait. Donc là, il y avait le bruit et l'odeur. Parce que le bruit des tripes de poulet qu'on arrache du corps du poulet, tu vois, au petit déjeuner face à ton bol de chocolat. et puis l'odeur, hein, parce que c'est de la tripe quand même. Voilà. Donc ça, c'est un mauvais souvenir. Ça te motive à te lever tôt. Pour ne pas tomber au moment de tripage du poulet, tu vois. Mais c'est un autre souvenir. Le poulet, hein, tu vois, comme quoi, hein, on peut tenir longtemps sans le poulet.
Voilà, fantastique.
La reine de la sanguette. Et alors, j'ai failli dire, mais Véro, c'était une chronique se souvenir des bonnes choses, mais vraisemblablement, pour Vicky, enfin, j'ai hormis les tripages du poulet au petit-déj, c'était.
Oui, c'est franchement, elle, enfin, c'est ce qui lui est venu tout de suite à l'esprit. Et je pense qu'à ce moment-là, comme elle dit, c'était pour la petite, quoi. Il y avait quelqu'un qui avait droit à ça.
Donc, il fallait
c'était
un espèce de privilège, en plus, quoi.
D'accord. Voilà. Ah ouais.
Merci pour ce joli
Merci,
souvenir.
Vicky.
Merci Sophie d'être venue nous parler cuisine d'automne.
C'était un plaisir.
Merci à tous, amis à tabler, d'avoir participé à ce deuxième opus de Bouche à Oreille.
Merci à toi.
On vous retrouve au mois de décembre avec une émission qui sera consacrée. On vous dira ça d'ici peu.
On ne sait pas parce qu'on a oublié.
Voilà, c'est ça. On a une vague idée, mais on n'est pas sûr. Il ne faudrait pas que derrière
parce
le débrief
se passe. C'est une surprise.
Et ce sera décembre, voilà. Ce sera la période des surprises.
De Noël.
Voilà. Et en plus, vous savez quoi? Nous sommes dans les temps. Donc.
Oh là, oui, il reste 3 secondes.
Il reste 3 secondes. Bonne soirée à tous.
Merci tout le monde. Bonsoir.
C'est pas comparable à rien, mais je vous assure. Et me pense il dire pute ce minière ce que you mini que par un mourir pour être mourir tout d'une cop que serait contente.